C'est la mer ?
Non, c'est ma belle-mère.
La belle parentalité, c'est une drôle d'aventure. La vôtre peut-être. Et si on en parlait un peu ? Bonjour à tous, je suis Clémence Bernard et pour vous, j'ai créé le podcast qui vous aide à trouver des réponses et des clés sur la belle parentalité. Un concept audio qui donne la voix aux personnes ayant elles-mêmes fait l'apprentissage de cette parenté d'un autre genre ou à celles et ceux qui ont un avis, conseils, tips à nous transmettre. Alors, si vous êtes parent, joli parent, enfant, bel enfant, beau grand-parent, acteur ou témoin d'une famille recomposée, ou toute personne désireuse d'écouter différentes expériences sur le sujet, bienvenue dans la communauté de la belle parentalité et piochez ce qui vous plaît.
Tu me saoules, sors de ma chambre. C'est ma chambre.
Et l'amour dans tout ça ? Eh bien, il en faut un gros paquet, un énorme même. Sous toutes ses formes. Je dirais encore plus que dans une famille traditionnelle, sans le forcer. Il en faut à la base, je veux dire, dans le couple. Et cela a été ma chance, de tomber amoureuse d'un homme solide, doté d'une force tranquille, peu sujet à la culpabilité, qui a su cloisonner. De cette attirance lors de notre rencontre, puis d'un sentiment amoureux qui s'est transformé au fil des ans et s'est accru et consolidé en réel amour en même temps que notre famille recomposée évoluait et face aux épreuves que nous traversions collectivement. Et pour mes beaux-enfants, je pense que cela a été croissant également et a démarré avec une profonde affection pour des enfants très attachants et respectueux. Cela a été difficile pour moi de ressentir rapidement de l'amour pour eux alors que je ressentais grandir en moi une immense responsabilité teintée de culpabilité au même moment. Dès que j'ai commencé à faire partie de leur vie, j'ai ressenti beaucoup de tendresse et d'affection pour eux. Et en même temps, je ne les avais pas portés durant 9 mois dans mon ventre, ni éduquer toute leur petite enfance. Je n'ai pas eu de désir de belle maternité. Elle s'est imposée à moi, brutalement, avec son lot de crises et de sentiments. Ma belle-fille aînée avait 12 ans lorsque je l'ai rencontrée. Elle avait été très perturbée par le divorce de ses parents et en grand besoin d'amour et de présence maternelle qui lui faisait défaut. À peine quelques premières soirées passées avec eux, sans encore vivre avec eux, elle m'a lâché avec tant d'attente un immense « Tu sais, Clem, je t'aime très fort. » J'étais bouleversée. Et j'ai ressenti encore plus de responsabilité et d'engagement. À cet instant, j'ai compris que je devais être à la hauteur de leur amour et me laisser le temps d'apprendre à les aimer, au risque que cela n'arrive jamais. Car cela ne se contrôle pas. On ne peut pas créer un sentiment d'amour ni le forcer. Car si les liens ne sont pas sincères et authentiques, ça risque de faire pshh. Ainsi, j'ai eu la chance de ressentir de l'amour naissant au fur et à mesure que notre aventure nous permettait de faire famille et tout a fini par se transformer au fil des années et des crises.
Je dirais que l'amour que je porte envers ma belle-mère, c'est synonyme de respect. Quand j'étais jeune, il est vrai que je lui disais « Mais laisse-moi tranquille, tu n'es pas ma mère, qu'est-ce que tu veux ?» Oui, effectivement, mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte en fait que cette femme, je la respecte tellement. Je la respecte tellement pour ce qu'elle a fait. Arriver comme ça dans une famille qui n'est même pas, j'ai l'impression, construite ou alors qui a été cassée par son passé, je trouve ça tellement respectable et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai pas peur de dire que c'est notre deuxième mère comme on lui a dit très souvent. Jamais on remplacera ma mère. Enfin c'est celle qui m'a fait naître et voilà. Mais j'ai grandi avec l'idée que j'avais deux mères, une mère et une première mère et une autre mère qui a fait énormément partie de mon éducation, que sans elle, je ne serais pas là. Ça, c'est sûr. Sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans elle, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Donc voilà, je pense que l'amour que je porte envers ma belle-mère, c'est beaucoup de respect aujourd'hui, beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait. Et je l'aime énormément.
L'intensité des épreuves que nous avons traversées, les immenses moments de joie, les kiffs en vacances ou autres, les fous rires, notre quotidien partagé, nos petits tocs à chacun, les relations uniques que j'ai construites avec chacun d'entre eux, je pouvais parfois ressentir de l'ingratitude et inconsciemment, je leur ai fait porter trop d'attentes de retour. Avec ces beaux enfants, on est trop souvent en attente de preuves, comme d'un dû au regard de notre investissement pour eux, qui peut être parfois très lourd à porter pour des enfants, ados ou jeunes adultes qui le ressentent. Ils sont déjà pris entre conflits de loyauté, entre la culpabilité d'aimer leurs beaux-parents ou frères et sœurs, leur père ou leur mère. Donc, si on pouvait éviter de leur faire ressentir qu'ils nous sont redevables de quoi que ce soit, ce serait déjà un sacré fardeau en moins pour eux.
Au début, c'était dur. entre les problèmes de maman, la nouvelle amoureuse de papa et tous les problèmes d'ado que j'avais, c'était assez compliqué pour moi de trouver de l'amour. Mais avec le temps, on a réussi à fonder une famille, et une famille remplie d'amour. On a eu des joies et des colères, comme chaque famille. Et la nouvelle amoureuse de papa, elle s'est vite transformée en une deuxième maman pour moi, à qui je peux me confier, qui m'écoute, qui m'aide et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Plein de personnes de ma génération détestent leur belle-mère. Moi, je l'aime énormément et je suis très contente que papa nous l'ait présentée.
Durant les différents climax, je prenais souvent pour moi leur mal-être existentiel. Je me posais 10 000 questions sur la façon dont je devais réagir, les émotions contradictoires que je pouvais ressentir, la honte de percevoir ponctuellement une forme de désamour. Je me mettais une pression de malade pour qu'ils ne ressentent pas de différence de traitement, d'amour ou de soins avec leur petite sœur. Il est vrai que je n'ai jamais forcé l'amour, mais que j'ai été une sacrée dictatrice du bonheur.
Moi, c'est Léa, la belle-fille de Clémence et la première de la fratrie. Quand Lynn est arrivée dans notre vie, ça a été un chamboulement total parce que un nouveau petit être à aimer, encore de l'amour qui se divise pour les parents, donc un peu compliqué à gérer, surtout par rapport à la jalousie. Mais après tout ça, ça a été une explosion de bonheur. C'est notre lien qui nous lie à tout jamais, à Clémence. Pour le coup, ça, on en est très fiers. Clémence, ça a été notre tyran du bonheur, notre nouveau souffle, notre nouvelle vie. Ça a juste été la cerise sur le gâteau pour s'aimer encore plus et fonder une vraie famille et non plus une famille recomposée. Aujourd'hui, moi, je considère que nous sommes une famille, juste une famille, plus une famille recomposée.
Je voulais qu'ils aient un maximum de plaisir simple et de drôlerie pour que la joie circule entre eux et que les liens se resserrent, malgré les grosses engueulades de fratrie et entre parents et enfants, évidemment. Je les assénais sans arrêt de « Elle est pas belle, la vie ? Souris-lui, elle te sourira ?» Je les ai tellement saoulés pour leur apprendre à communiquer, mon conjoint en premier, à verbaliser leurs émotions et ne pas oublier de dire que l'on s'aimait. Ce qui comptait pour moi, c'était de les aimer à ma façon, depuis ma place, et de réussir à leur démontrer, les rassurer, afin qu'ils se sentent vivre dans un foyer en sécurité en restant préoccupés au maximum par des considérations de leur âge. Ils savent aujourd'hui que je les aime profondément et que j'ai fait de mon mieux pour répondre à tous leurs besoins, même si je n'ai pas toujours été à la hauteur. Enfin, ce qui nous a beaucoup aidés, c'est que chaque recomposant de notre famille a pu compter sur le soutien, l'amour et les conseils de nos amis respectifs, comme de notre famille proche. Les enfants pouvaient décharger leur colère envers nous auprès de leurs copains, respirer en partageant des moments de joie après les crises, trouver du réconfort et une écoute, et se faire consoler en cas de mélancolie. Pour ma part, j'ai eu énormément de soutien et d'amour de mes amis et cela m'a beaucoup aidée à croire, avancer, surmonter les crises et continuer notre aventure avec davantage de sérénité comme de pugnacité. Donc, l'amour au sein de la famille est important, certes, mais il se peut que parfois, il ne puisse être ressenti ou exprimé. Il faut donc pouvoir compter sur le respect pour chacun. L'amour et le soutien de ses proches devient alors une aide ultra précieuse dans la construction et la pérennité d'une famille recomposée. Alors voici ma dernière question pour le cinquième épisode de cette série. Et si on parlait d'amour dans la famille recomposée ? Catherine Audibert.
Dans la recomposition, l'amour ne vient pas forcément d'emblée. Il peut venir avec le temps et avec l'attachement. Parce que finalement, à force de vivre ensemble, de se préoccuper les uns des autres, de vivre des choses ensemble, de partager des choses ensemble, il y a un attachement qui se crée. Même quand, dans certains cas de figure, ça partait mal au départ, finalement, on voit que l'attachement est possible. On ne peut pas se forcer à aimer un bel enfant comme on ne peut pas forcer un bel enfant à aimer son beau-parent. Et il y a une espèce de mythe qui voudrait faire croire que dans une recomposition familiale, on est censé tous s'aimer. Comme si on arrivait sur une page vierge et que voilà, on pouvait faire abstraction de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui est difficile à vivre quand la vie est bouleversée et parfois un peu malmenée. Donc en fait, il faut du temps. Il faut du temps pour se connaître, s'apprivoiser. Il faut du temps pour s'attacher mutuellement. Il faut aussi de la patience, il faut de l'écoute. Et dans ces conditions, l'attachement peut se créer. En tous les cas, la préoccupation de l'autre se crée. Je rencontre beaucoup de gens qui sont dans une grande culpabilité justement par rapport à cette histoire de mythe qui voudrait que qu'il faille s'aimer tout de suite et que les beaux-parents sont censés aimer leurs beaux-enfants d'emblée. Parce que justement, ça, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, les beaux-parents, les belles-mères particulièrement, sont très coupables de ne pas éprouver ce qu'elles ont pu éprouver pour leurs enfants. Mais comme je le disais, quand on devient mère, il y a une préoccupation maternelle qui se construit déjà bien avant que l'enfant soit conçu. Et que cette préoccupation-là n'existe pas quand on est belle-mère. Donc il y a quelque chose qui commence à se construire à partir du moment où on rencontre un enfant qui est celui de notre conjoint. Et comme il se passe dans la vie de tous les jours, même si vous êtes très amoureuse d'un homme, les enfants sont des êtres différents. Donc vous avez des affinités avec certains enfants, vous n'en avez pas forcément avec d'autres. Et ce n'est pas parce qu'ils sont les enfants d'un homme dont vous êtes amoureuse que vous allez ressentir les mêmes élans pour ces enfants. Donc, c'est le début de la construction de quelque chose, peut-être de sentiments, mais ça, c'est l'avenir qui peut le dire à chaque fois. Il n'y a pas de culpabilité à avoir de ne pas ressentir d'emblée de l'amour pour ces êtres que l'on découvre. Voilà, dans la vie en général, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne l'aimez pas forcément dès le premier regard. Ça arrive avec certaines personnes, mais ça n'arrive pas tous les jours avec tout le monde. Ce dont l'enfant a besoin, ce n'est pas forcément d'être aimé exactement comme ses parents peuvent l'aimer, encore qu'il y a des parents qui ne savent pas aimer leurs enfants. Mais en partant de l'idée que l'amour des parents devrait se retrouver dans l'amour des beaux-parents, il faut se dire que ce qui compte, et c'est peut-être ce qui peut déculpabiliser les beaux-parents, c'est pas forcément de calquer leur amour sur celui des parents. Ils aiment avec leur façon d'aimer, ils aiment à leur place, depuis leur place, ces enfants-là. Mais ce qui est important pour les enfants, c'est pas que les beaux-parents les aiment comme leurs parents peuvent les aimer. C'est qu'ils soient dans un foyer en sécurité, où on leur permette de grandir et d'être préoccupés par ce qui concerne leur âge pendant ces années où ils sont en train de se construire physiquement et psychiquement. Et c'est cette sécurité, finalement, cette possibilité de se sentir chez eux, acceptés, respectés, qui va les aider plus que l'idée d'être aimé. Alors, je pourrais même pas définir ce que c'est que l'amour dont ils devraient bénéficier, parce que même dans une famille traditionnelle, je ne sais même pas ce que c'est que cet amour un peu idéalisé dont on parle souvent. Les adultes sont là pour prendre soin des enfants, oui, pour les aider à grandir, à s'épanouir, à devenir adultes et autonomes. Donc, c'est ça qui compte, c'est de donner à ces enfants-là les conditions qui leur permettent de bien grandir. Même dans une famille traditionnelle, on n'aime jamais deux enfants de la même façon. Il y a toujours une spécificité pour chaque enfant qui fait que l'amour sera différent. Ce n'est pas une question quantitative, c'est une question probablement de singularité. Parce que chaque enfant est différent, chaque enfant arrive à un moment différent de votre histoire de parents. Il n'y a pas deux formes d'amour qui se ressemblent pour nos propres enfants. Donc comment est-ce que ça pourrait être différent pour les beaux enfants? On les aime aussi avec toute l'histoire, toute l'expérience qu'on traverse en devenant beaux-parents. La comparaison n'a aucun sens. C'est vrai que l'amour pour son enfant peut paraître inconditionnel, ce qui n'est pas vrai dans tous les cas, parce que je peux rencontrer beaucoup de parents pour qui cet amour n'est pas si inconditionnel que ça. Mais on peut très bien se représenter effectivement l'amour du beau-parent pour son bel enfant comme un amour finalement soumis à conditions, Et c'est vrai que je l'entends souvent de la part des beaux-parents qui se disent « j'ai fait beaucoup pour cet enfant et finalement, il ne me le rend pas », qui fait dire qu'il n'y a pas cette évidence qu'il peut y avoir à donner quand on est parent pour les beaux-parents. Sans doute parce que, effectivement, comme je le disais, quand on rencontre un bel enfant, on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas attendu, on ne l'a pas désiré. Donc, ce qui va se nouer entre le beau-parent et le bel enfant n'est pas du même ordre, même s'il y a des points communs, n'est pas du même ordre que ce qui se noue entre parents et enfants.
Fanny, je vais essayer de l'exprimer la façon la plus juste, hein, parce que ça fait bizarre de comparer des amours et puis d'y poser ce type d'adjectif. Mais c'est sûr que avec Léo, donc qui est mon fils, je le vois grandir, évoluer. Il ne correspond pas forcément à ce que j'imaginais au départ. On est quand même toujours surpris de ses enfants. Finalement, même ses propres enfants sont des étrangers, ça c'est certain. Mais je me dis que quels que soient ses choix, quel que soit l'homme qu'il devient, je serai toujours là pour lui, toujours même admirative et aimante, et voilà. Et je n'attends rien de lui, c'est-à-dire vraiment, c'est une sorte de générosité totale. Vis-à-vis de mes beaux-enfants, je pensais aussi être dans cette forme de générosité-là. Et puis, il y a eu des événements récents, c'est lié à notre histoire, à l'histoire de Laurent, qui font qu'à un moment donné, ils se sont un peu... pas ligués, mais ils n'ont pas pris le côté de leur père au moment où il a été fragilisé et sont remontés à la surface des tas de souvenirs liés à leur mère. Ils ont été plutôt loyaux vis-à-vis de leur mère. Je pourrais rentrer dans le détail de cette histoire, mais là, pour ce qui est de ta question, il suffit que j'évoque ce point-là. Et je me suis sentie un peu trahie. J'ai eu l'impression qu'ils choisissaient leur mère, la loyauté vis-à-vis du passé avec leur mère, plutôt que leur père aujourd'hui et moi, du coup. Et je me suis rendu compte que finalement, j'attendais d'eux un retour. J'attendais d'eux la même loyauté, une sorte de réciprocité par rapport à ce que je leur avais donné. Je voulais recevoir la monnaie de ma pièce. Et ben non, en fait, non, on reçoit pas la monnaie de sa pièce. Avec des beaux enfants, c'est comme avec des enfants, c'est du don total. Et c'est comme ça. Mais voilà, c'est plus difficile à accepter. Je me suis rendu compte que, je traitais pas de la même manière Léo et mes beaux enfants sur ce point-là. C'est peut-être lié à ma personnalité aussi. C'est que moi, je suis plutôt quelqu'un, je pense, qui donne. J'ai pas trop de mal, c'est plus compliqué que ça. J'ai pas beaucoup d'amis, je suis pas altruiste au sens où je vais pas aller récupérer les chats crevés dans la rue, c'est pas du tout. Non, je suis assez égoïste, assez solitaire et j'aime bien mon petit confort. Néanmoins, quand j'ai décidé de faire entrer quelqu'un dans ma vie, je le fais totalement et je ne souffre pas de donner. C'est comme ça, voilà. Et ça s'est fait comme ça au début avec mes beaux-enfants. Mais tu as dit, c'est comme dans un couple, je le vis vraiment comme ça. C'est qu'il y a des moments où, effectivement, il faut faire des concessions. Et on le fait par amour. Mais une fois que c'est fait, je n'en ai pas le regret. Je n'ai pas eu le sentiment de m'être dit « Ah, j'aurais pu vivre mieux ou passer des meilleures vacances si ça n'avait pas été là ». Non, je n'ai jamais vécu ça comme ça. Sur le coup, il m'est arrivé de me dire « Oh là là, ce serait plus simple s'ils n'étaient pas là ». Voilà, mais ça, c'est sur le coup. Parce qu'il y a des moments quand même très compliqués dans la belle parentalité. Enfin, ton podcast est fait pour qu'on évoque tout ça, mais c'est des moments de tension extrême quand même. Mais disons qu'au global, je ne me dis pas « j'ai renoncé à des choses pour vivre ma vie de couple avec Laurent, avec ses enfants ». Pas du tout. Je l'ai fait en conscience, et une fois que c'est fait, je ne regarde pas derrière et je trouve ça formidable. Enfin, j'en suis heureuse, voilà, c'est comme ça. Et un autre point, c'est que je n'ai jamais trop donné, par contre. Ça, je pense que je n'ai jamais trop donné. J'ai jamais cherché à être aimée, par exemple. Et ça, je crois que c'est une chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai senti de l'amour chez eux, autant que moi j'en ai ressenti pour eux, je ne l'ai plus questionné, ce truc-là. Et donc, j'ai jamais rien fait pour que mes beaux-enfants m'aiment, ni les filles avec qui, voilà, il y avait cet amour très simple et évident, ni Jules avec qui c'était plus distant. Et du coup, ça m'a évité, je pense, d'être trop en recherche et d'être trop en surexposition et de mon don affectif, ou même de faire des choses que j'avais pas envie de faire. Si j'avais pas envie de jouer avec les filles, je jouais pas avec les filles. Si j'avais pas envie de discuter avec Jules, avec Marie, je me suis jamais forcée. Sachant qu'il y a un autre écueil dans lequel je suis tombée. Je n'ai pas eu ce désir d'être aimée, parce que ça me paraissait évident qu'on s'aimait, mais j'ai eu le désir, je pense, à un moment donné, de construire une belle famille parfaite.
ce truc de qu'est-ce qu'on s'entend bien, les enfants s'entendent bien, tout se passe bien, vraiment on a de la chance, voilà, et qui est en fait une sorte de mythologie. Et dans lequel il faut pas tomber, parce que non, il y a des moments où on leur en veut, des moments où ils m'agacent, des moments où je les agace, où ils m'en veulent, enfin ça fait partie de la vie, des moments où je partage pas leurs valeurs, des moments où, même quand Lisou était petite, elle parlait beaucoup de sa mère, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de sa mère, et pourtant Dieu sait que, enfin elle était pas envahissante non plus, mais voilà, c'est comme ça. Donc non, il faut pas chercher ce truc de perfection, et ça je l'ai vraiment compris au moment de la crise que j'évoquais tout à l'heure, donc... un moment où on a tous été un petit peu bouleversés et où il a fallu que les choses se remettent en place et où finalement je me suis dit mais en fait je vais renoncer à cette idée totalement utopique de la belle famille parfaite. Je vais juste être la belle-mère que je suis, imparfaite, avec ces moments où elle a besoin d'être seule, ces moments où elle est contente de voir ses beaux-enfants, ces moments où elle dit non, etc. Et eux aussi auront le droit d'être imparfaits et d'être qui ils veulent avec moi, quoi. Déjà, je pense que ça arrive aussi à des mères et à des pères de pas aimer leurs enfants, ça doit être d'ailleurs quelque chose de très compliqué à assumer parce que la société met beaucoup de pression là-dessus et je pense que la société met beaucoup de pression aussi sur les beaux-parents d'ailleurs et les beaux-enfants. Moi, je pense pas qu'on ait une obligation d'amour, on a une obligation de soin. Ça, pour le coup, quand on est beaux-parents, enfin, moi, ça m'est paru tout de suite une évidence, c'est-à-dire que les enfants de l'autre sont là. Eh ben, il faut en prendre soin, y être attentif, veiller à ce qu'ils mangent bien, ils se lavent bien, ils se couchent comme il faut, ils aillent bien, ils aient suffisamment d'espace pour s'exprimer, etc. Donc c'est plutôt, moi je le vois comme quelque chose qui est de l'ordre du soin. S'il y a de l'amour en plus, c'est une chance inouïe et il faut pas s'interdire de la vivre, au contraire. Mais voilà, la seule obligation, je dirais, c'est celle du soin. Ah, c'est beau déjà comme expression, le beau couple. Et d'ailleurs, je voulais te dire que la belle parentalité, je trouve ça magnifique. Enfin, je trouve qu'il y a des concepts dans ton podcast qui sont très beaux et qui sont très réjouissants. Voilà, ça aide. Alors, le beau couple, déjà, c'est un couple où le parent des enfants ne culpabilise pas de ce qu'il leur fait vivre, ne culpabilise pas d'avoir un nouvel amour, ne culpabilise pas voilà, de créer une nouvelle famille, parfois d'avoir d'autres enfants avec ce nouvel amour. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et s'il ne culpabilise pas, ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est qu'il faut que le couple soit premier, en fait, dans la famille. C'est le couple, les temps du couple, la chambre à coucher des parents, qui doit être comme ça un peu centrale, sacrée. Si le couple va bien, en général, le reste suit. Donc, quand on avait les enfants, les filles, parce que Jules avait déjà son appartement quand je l'ai rencontré, mais quand les filles venaient, nous, on les avait un week-end sur deux et tous les mercredis soirs. Eh bien, elles étaient là, mais elles suivaient finalement notre vie. On n'allait pas faire un programme différent parce qu'elles étaient là. Elles étaient embarquées, pareil, pour les vacances. On faisait notre programme de vacances et puis les filles le vivaient avec nous. Mais on n'a jamais considéré qu'il fallait qu'on se mette en suspens ou qu'on arrête de vivre parce qu'elles venaient. Et ça, c'est grâce à Laurent et je pense que c'était une bonne chose.
Thomas.
C'est un peu un amour conditionné. Hein, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas instinctif, quoi. Faut bien réfléchir. Oui, il faut bien réfléchir et pas générer des conflits inutiles, d'ailleurs. Donc, ça demande une réflexion. Voilà. Faut aimer avec certaines conditions. Donc, après, moi, je suis pas hyper expansif, mais je dis ce que je pense. C'est bizarre, hein, mais c'est-à-dire que comme j'aime tellement les gens, j'ai plutôt tendance à dire vraiment ce que je pense, quoi. Parce que je les aime, donc. Je leur dis vraiment ce que je pense. Après, leur dire que je les aime, ça, j'y arrive pas. Ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Hein. Ils ont passé plus de temps avec moi qu'avec n'importe qui. Donc, on est vraiment dans la thématique famille. On peut s'appeler famille, quoi. C'est ça, le vrai truc. On s'est retrouvés parce qu'on a des valeurs communes avec Tamara. Et c'est ce qui a fait le ciment de ce couple, en fait. C'est d'avoir une vraie vision commune. Donc, c'est important, ouais. Surtout dans des familles recomposées, parce qu'on sait tout de suite ce qui va pas, quoi. Pour la première fois, tu sais que c'est la bonne, tu vas avoir un enfant, tu te dis waouh, ça y est, c'est parti comme. Et que tu te plantes l'année d'après, eh ben, je peux te dire, ça calme, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai réfléchi pendant un bon moment, avant de me remettre en couple, parce que c'est équilibrant d'être en couple. Il faut que ce soit équilibrant, c'est toxique, faut mieux être tout seul, hein. Donc, du coup, avec Tamara, on a des points communs, ça nous permet d'avoir une sensibilité commune par rapport à ce que l'on attend de nos enfants, donc. On va dire que les trois, du coup, sont à peu près traités en équité, malgré le fait qu'ils aient pas le même âge, quoi. Ce qui est très mauvais pour les gamins, c'est de pas leur laisser de porte de sortie, quoi. Donc, ça, c'est le pire. Après, j'ai reporté pas mal de choses et j'ai fait en sorte que les problèmes des enfants de Tamara soient résolus par Tamara. Donc, des bons tips, faut de la patience, pas trop se mêler de toute cette partie que j'écrivais tout à l'heure. Tout ce qui est chantage affectif, faut vraiment le prendre avec des pincettes et sortir sa partenaire de ça, parce que c'est un piège pour le parent, quoi. Le parent isolé, qui se fait isoler par cette espèce de chantage de gamin.
Julie.
Je sais pas si je serais capable de vraiment distinguer l'amour conditionnel de l'amour inconditionnel. C'est des questions que je me pose très souvent dans ma belle parentalité, parce que je me dis toujours, mais si demain il y avait un conflit majeur entre ma belle-fille et mon fils, qu'est-ce que je ferais ? Parce que j'imagine que intrinsèquement, je veux dire viscéralement, je donnerais raison à mon fils parce que lui, je l'ai porté pendant 9 mois, il est sorti de mes entrailles. Donc, j'imagine qu'il y a un truc d'instinct maternel, bien que on n'est pas là pour parler de ça, mais le sujet d'instinct maternel est un vaste sujet. Je suis pas convaincue de l'existence de l'instinct maternel. Donc peut-être qu'il y aurait un truc comme ça qui se joue. Après, je suis réputée pour être quelqu'un de plutôt juste. Donc je me dis, non, je resterai juste quand même. Si c'est ma belle-fille qui a raison, je saurais lui donner raison. Sur des petits conflits du quotidien, généralement, ça se passe très bien. Et effectivement, je suis pas toujours du côté de mon fils. Parce qu'en plus, là où ma belle-fille a 15 ans et demi, mon petit garçon en a 6 ans et demi. Donc, ça peut être parfois des petits conflits. Tu rentres dans ma chambre alors que t'as pas frappé. J'étais dans la salle de bain, tout ça. Ce sont des petits conflits pas très graves. Et quand c'est elle qui a raison, c'est elle qui a raison. Et la question se pose pas. Maintenant, s'il y avait demain un conflit très grave, je saurais pas quoi dire, parce qu'en plus, c'est pareil sur l'amour inconditionnel. Je suis pas convaincue que les enfants de Michel Fourniret, ils aimaient leur père, que la mère de Michel Fourniret, elle aurait aimé son fils. Donc, tout comme l'instinct maternel, comme je suis pas convaincue qu'on ait un amour inconditionnel. En revanche, sur la question de comment on construit l'amour pour ses beaux enfants, là où je disais précédemment, t'es tombée amoureuse du mec, dans le package, il y a les enfants, le ou les enfants qui vont avec, qu'est-ce que tu fais ? J'ai le sentiment qu'il y a quand même une espèce de fusible qui se met en place, de dire « je vais tout faire pour les aimer ». Et puis, oui, parfois tu peux échouer. Parfois aussi, quand tu as des ados à la maison et que ce sont les tiens, il y a des moments où, oui, tu les aimes parce que, encore une fois, c'est le sang de ton sang, c'est la chair de ta chair. Mais il y a des moments où c'est super raide aussi, je pense. Faut pas s'interdire aussi avec les beaux-enfants. Faut pas se mettre la pression qu'on se mettrait pas avec les propres nôtres, de dire, il y a des moments où ça va moins bien se passer. Il y a des moments où j'aurais peut-être un peu moins d'amour. Mais comme il y a des moments où, avec tes enfants à toi, t'as un petit peu moins d'amour pour des raisons qui t'échappent. Et ce serait quand même hyper hypocrite de dire, non, je les aime tout le temps à 100%. Non, il y a des moments où tes enfants, c'est un peu raide. C'est pas différent avec les beaux-enfants. Mais t'as autant le droit, pour moi, que quand c'est tes enfants. Et en revanche, de la même manière, moi j'ai toujours entendu dire ça, après, encore une fois, je suis pas psy, de la même manière qu'on ne doit pas obliger nos enfants à nous aimer, puisqu'ils ne nous ont pas choisi, nous, on a choisi de les avoir, donc on a un devoir d'amour et de protection, nos beaux-enfants, pareil, ils ont le droit de ne pas nous aimer, et ce n'est pas grave. Sur la question du beau couple au sein de la belle parentalité, là, pareil, pas de recette magique. J'ai pas le souvenir qu'on ait longuement échangé sur le sujet. Comme on se connaissait déjà un peu en tant que copains et qu'on avait quelques copains communs, je pense qu'on savait en termes de valeurs, quelles valeurs de vie, d'une manière générale, on partageait. On vient à peu près des mêmes types de familles, donc nos socles éducatifs, nos valeurs humaines sont globalement les mêmes. De la même manière, ça s'est fait très naturellement. Moi, je n'ai pas exigé, je n'ai pas demandé d'avoir une place particulière. Erwan ne m'a pas demandé non plus d'avoir une place particulière spécifique. J'ai toujours eu mon mot à dire dans l'éducation de sa fille, de ma belle-fille. Ma parole n'est pas plus importante que celle de sa maman, il ne faut pas confondre les rôles. Mais sur les grandes décisions, il m'a toujours consulté. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que vraiment ça s'est fait comme ça se fait aujourd'hui avec notre fils, de manière hyper naturelle. On n'a pas posé une espèce de charte avant. C'est quoi ta place de belle-mère avec ma fille ? Je connais des couples comme ça autour de nous. Tu n'es que la belle-mère de mes enfants, donc tu n'as pas voix au chapitre. Moi, je ne l'aurais pas accepté ça. De la même manière que je suis tombée amoureuse de toi avec ta fille, bah, tu dois accepter que moi, je fais partie de ta vie. Ta fille fait partie de ma vie, je fais partie de la vie de ta fille. Moi, les couples qui arrivent à rendre ça très hermétique, très compartimenté, je les admire parce que, bah oui, parfois, c'est un peu plus compliqué de prendre des décisions à quatre et pas à deux. Hein. Quand je dis quatre, c'est du coup mon mari et moi, et puis bah, son ex-conjointe, donc la maman de ma belle-fille, et son propre mari à elle. Alors oui, c'est plus compliqué, mais je crois que vraiment dans l'intérêt de l'équilibre de tous, bah, c'est quand même mieux que tous les adultes concernés se mettent d'accord. Et puis, bah, comme quand t'es que deux, bah, parfois ça coince. Ouais, ok. Mais j'ai le sentiment, pas plus, pas moins. Mais en tout cas, j'aimerais pas que ce soit compartimenté. À partir du moment où je suis entrée dans la vie de ma belle-fille Thelma et qu'elle est entrée dans ma vie, bah, on fait les choses ensemble. J'ai pas envie que ce soit hermétique.
Ah oui, c'est clairement l'amour pour Sophie. C'est sûr que je l'ai fait pour elle et grâce à elle. Alors le conflit de loyauté, j'ai compris la définition un petit peu à mes dépens, puisque à un moment, Aloïs a vraiment commencé à être très compliqué, et donc on l'a amené chez un psychologue. Et une fois, donc il y avait une séance à laquelle Sophie et moi avons participé sans Aloïs, et j'ai raconté une anecdote au psychologue, qui était qu'une fois je jouais avec Aloïs dans sa chambre, moi j'étais allongé par terre, on s'amusait, on rigolait. Et en fait, en une fraction de seconde, il a changé d'attitude et il m'a jeté un jouet en pleine figure. Donc moi, j'avais plutôt tendance à penser qu'il était perturbé. Et en fait, en racontant cette anecdote au psychologue, c'est elle qui m'a dit « Mais non, ça, c'est un conflit de loyauté. C'est parce qu'en fait, il est déchiré entre l'attachement qu'il a pour vous et puis pour son père. » Donc c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Et effectivement, elle m'a dit « Et s'il vous fait subir ça aussi, c'est qu'il sent que vous avez les épaules suffisamment larges pour l'accepter. » Donc j'ai compris que ça allait durer encore un petit bout de temps. Les périodes où c'était compliqué, je pense que je n'étais pas dans des phases où je donnais de l'amour. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, ce qui est important, c'est d'être cohérent et qu'il n'y ait pas de dissonance entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Et très honnêtement, quand on vous dit 10-20 fois par jour que vous êtes méchant, on ne peut pas dire à la personne « je t'aime comme si tu ne disais rien ». Pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, je suis sûr que ça aurait sonné faux. Donc, disons que j'étais dans des phases où je continuais d'assumer mon rôle de beau-père au sein de la famille pour toutes les tâches et ainsi de suite. Ces périodes-là, ça a un peu distendu les liens entre nous deux. Alors oui, je pense qu'il ne faut surtout pas se forcer et que de toute façon, les relations sont très différentes entre moi qui ai connu Aloïs à l'âge d'un an et puis des gens qui vont connaître leurs beaux-enfants beaucoup plus âgés. Moi, j'ai vraiment pris la place du père. Surtout qu'en fait, Aloïs, au final, n'a quasiment jamais vécu avec son père. Il n'a jamais connu de famille nucléaire. Donc la relation n'est pas du tout la même que certaines autres personnes peuvent avoir. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment être aligné aligner ses paroles, ses sentiments et ses gestes. Parce que de toute façon, les enfants le sentiront. Il faut vraiment être aligné et puis que tout soit cohérent. Pour la question est assez difficile, mais effectivement, moi je le ressens, je le vois quand je vois mes filles, que je reconnais en elles des traits physiques de ma personne ou alors certains traits de caractère. Forcément, je suis plus ému que quand je vois certaines réactions de l'aîné. Et à mon avis, ce qui est important, c'est justement de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas mentir aux enfants. Moi, j'ai jamais dit à Aloïs, je t'aimerais comme mes filles. Je m'efforce de le faire, mais je ne lui ai pas dit parce que j'estime que ça sonnerait faux, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire, mais je sais qu'il y aura toujours forcément une différence. Même si encore, cette différence, à mon avis, va aller en s'atténuant parce que, comme je l'ai dit, moi je l'ai connu très jeune. Au final, les années passées ensemble tissent du lien. Donc voilà, je m'efforce d'appliquer les principes que j'ai dans ma vie à mes enfants. C'est important pour moi d'incarner les choses plus forcément que de les verbaliser. Je pense que certaines fois, peut-être que certaines personnes ont envie de trop verbaliser certaines choses qu'elles ne ressentent pas. Bon, moi, j'essaye de lui démontrer par des actes. Sophie est toujours restée solidaire. Elle n'a jamais laissé passer ses attitudes, disons, déplacées vis-à-vis de moi. Elle l'a toujours repris là-dessus. Donc, sur ce point-là, on a été très soudés. Et elle n'a jamais pardonné à Loïs en disant « Oui, bon, ce n'est pas de sa faute. Il est dans une famille recomposée. » On s'est vraiment efforcé là-dessus d'être très soudés, très alignés. Le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même et avec ce qu'on ressent et de ne pas essayer de se travestir à avoir des propos qu'on ne ressent pas vraiment. Je pense que de manière générale, tous les êtres humains sentent les choses et donc sentent quand il y a des dissonances, quand justement ça sonne faux, que ça sonne creux. On l'a tous connu avec certains professeurs qui n'étaient pas à l'aise pour diriger une classe ou certains patrons qu'on a eu en entreprise, voilà, qui ont des grands discours et on se dit « il y a une dissonance ». Et les enfants, c'est exactement la même chose, sauf qu'eux, ils le sentiront vraiment, ils ne l'intellectualiseront pas. Donc, ils auront peut-être des réactions après, j'imagine, d'autant plus violentes par rapport à un adulte.
Catherine, il peut y avoir une notion d'ingratitude, je pense que c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas vraiment de la gratitude. J'ai énormément de mémoire, mais je crois que j'ai aussi une mémoire sélective. À une période, il avait été décidé, ou c'était d'un commun accord, c'était tacite, que les filles de ma belle-fille m'appellent mamie. Leur grand-père papy, bon, ça c'est parfaitement légitime, hein. C'est le père de leur mère, donc qu'il l'appelle papy. Et un jour, pas fait comme un autre, ma belle-fille me dit, comme on revoit un petit peu maman, et que mes filles voient maman, c'est elle leur vraie mamie, donc maintenant elles ne t'appelleront plus mamie, comment veux-tu qu'elles t'appellent ? J'étais tellement, mais ça m'a... C'était vraiment une grande claque, psychologique et affective. En général, j'ai la réplique assez facile. Elle peut être acerbe. Et je lui dis, je m'en fous. Elles m'appellent comme elles voudront. Et puis c'est tout. Mais ça s'est passé, il y a de ça, au moins 20 ans. Et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Alors que Thelma et Vadim m'appellent toujours mamie. Maintenant, c'est plus simple parce que l'aînée de mes petites belles-filles, oui, elle a 27 ans. Donc elle m'appelle Catherine, il n'y a pas de problème. Je me suis dit que j'avais de la chance de pouvoir peut-être vivre une autre relation et qu'elle serait belle. Et effectivement, c'était une deuxième chance. L'amour dans la belle parentalité, ça fait partie de l'amour général, de l'amour avec un grand A, où on a des sentiments ou on n'en a pas. Alors les sentiments, ils n'arrivent pas comme ça. Moi, je pars du principe qu'on ne peut aimer que les gens qui sont aimables, au sens étymologique. L'amour, il faut qu'il soit partagé. Sans ça, c'est pas de l'amour. Quant à ma troisième belle petite fille, d'emblée, je suis tombée en amour. Je l'aime comme j'aime mon petit-fils Vadim, d'un amour, je dirais pas tout à fait inconditionnel. Il ne faudrait pas non plus qu'il pousse le bouchon trop loin. Mais quand l'un ou l'autre me dit « Mamie », avec comme un point d'interrogation dans la voix, je me sens tout de suite ouverte positivement à ce qu'ils vont me demander ou me dire. Et c'est rare que la pièce tombe à côté du trou. Alors, l'importance de notre couple pour faire ce socle, je pense que le fait que nous soyons encore mariés, et ce depuis 50 ans, je ne sais pas si c'est un socle, mais c'est un repère. C'est un repère pour nos petits-enfants, beaux et pas beaux. Et pourtant, il est très beau. Parce que ça leur montre, pour eux, se construire après, que la pérennité... d'un couple. On est vraiment des balises. On n'est pas une bouée comme ça qui va selon les vagues et le vent. Mais on est là. Et on est là individuellement, mon mari et moi-même. Et on est là aussi à deux. Parce que je pense que quand on s'entend bien, même si de temps en temps, il y a des couacs, on apporte quelque chose de plus solide. Et que plus tard, ils s'en souviendront en disant « Oui, papy et mamie, c'était comme ci, c'était comme ça. » On forme une espèce d'entité.
Maëva. Un couple dans la belle parentalité, fort et en accord, c'est hyper important parce que je pense que l'éducation d'enfants, c'est très très compliqué, qu'on ait déjà des enfants communs. Alors en plus, des enfants où il y a une autre maman ou un autre père à côté, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup de tolérance, mais comme dans toutes les familles. Et un front commun. Ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord avec l'intervention, comme pour les devoirs, où ma belle-mère dit oh, « calme-toi Fabrice », oui, bien sûr. Mais bon, après, sur les schémas importants, ils ont toujours été de front. On a toujours, ils ont créé cette famille, en fait, ce lien familial où on est ensemble. Vous avez un problème, vous venez voir vos parents, on est là pour vous, mais en même temps, ça ne va pas, on va s'occuper de vous ensemble. Et ça n'a jamais été le côté père fouettard ou mère fouettard. C'était, il y a quelque chose qui ne va pas, on vous le dira ensemble et on essaiera après de trouver la solution ensemble. Bon, on va peut-être un peu gueuler d'abord, mais après, on va en discuter tous ensemble, quoi. Et ouais, c'était important. Quand j'avais un problème, je vais aller voir papa et... Je disais toujours mon père et Karine, parce que j'appelais déjà ma mère, maman... Et pour être très honnête, Karine m'a raconté que petite, je lui avais demandé si je pouvais l'appeler maman. Et elle m'avait dit non. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, pas parce qu'elle ne voulait pas être ma maman, mais parce que j'avais déjà une maman et que c'était important pour elle et que ça ferait beaucoup de peine à ma maman si je l'appelais maman. Et j'étais toute petite, donc moi j'ai compris. Et j'ai toujours appelé Karine. Elle m'a dit que je pouvais lui trouver un autre nom, etc. Mais voilà, du coup je l'ai toujours appelée Karine. En revanche, quand je parle à mon demi-frère et demi-sœur, je n'aime pas ces termes, mais pour que vous compreniez, qui s'appellent Jeanne et Mathieu, qui sont donc les enfants de mon père et Karine, je dis papa et maman. Et ils savent très bien que je parle de Karine et pas de ma maman, ma mère biologique. Non, ça, il n'y a pas de doute. Donc, ça dépend à qui je me réfère, en fait. Pour moi, le beau couple, ce sont des référents parce que j'ai eu la chance d'avoir deux foyers où, si j'avais besoin de me confier, je pouvais aller voir autant d'un côté ma mère ou ma belle-mère, autant de l'autre mon père ou ma belle-mère. Pour moi, je pense que oui, il est possible d'avoir un amour inconditionnel pour une femme qui ne nous a pas mis au monde. Et je ne parle pas du cas d'adopter, parce que moi, j'avais encore ma mère. Mais encore une fois, je pense qu'on a assez d'amour pour plein de personnes. C'est juste qu'on construit des relations différentes. Parce que tout simplement, je me rappelle de choses qui sont plus fortes que les liens du sang. Je comprends la peur des belles-mères de se dire « j'ai pas porté ». En plus, surtout quand vous avez eu un enfant, après se dire « j'ai porté mon enfant, je sens ce lien inexplicable, limite magique pour plein de femmes qui ont des enfants ». Mais il y a d'autres choses qui rentre en jeu. Karine, c'est un amour sans faille, tout simplement parce que il est réciproque, quoi. Et elle me l'a donné, donc elle me l'a donné toute petite. Ça me fait monter les larmes et que je peux pas expliquer pourquoi j'aime autant cette personne. Et pourtant, elle m'a pas mis au monde. Et pourtant, c'est pas ma mère. Et pourtant, ma mère m'a pas abandonnée. Ma maman a été là toute ma vie et j'aime ma maman plus que tout. Mais j'avais assez d'amour pour aimer d'autres mamans qui m'ont apporté d'autres choses. Et voilà. Et ma maman, c'est ma maman et je l'aime et ça lui enlève pas sa place. Et elle a laissé la place à d'autres femmes dans ma vie. Je pense que ça a dû être très dur pour elle, mais je pense que ma mère, elle a jamais douté de mon amour pour elle non plus. Donc c'était pas une compétition en fait. Et tout le monde s'est laissé la place et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de femmes dans ma vie pour combler parce que personne n'est parfait. On peut pas apporter tout à une personne, c'est impossible. Et voilà, chacun avait sa place et je les aimais tous et je les aime tous.
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout et parlez-en autour de vous. Un chouette commentaire et vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcasts seront toujours les bienvenues. Si vous souhaitez participer à ce drôle de labo, continuer l'aventure et faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me le proposer sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de La Belle Parentalité et tentez de choper ensemble ces petites clés.